RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, la radio, RMC Story, la télé pour débattre, pour discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Joël Dagosséry qui est coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie venu de l'Est de la France. Bonjour Jean-Loup.
Bonjour.
Et puis Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, nous accompagne. Bonjour mon cher Didier.
Salut Alain, bonjour à la France profonde.
À 10h, nous serons rejoints par... le ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire, il sera avec nous tout à l'heure. Bruno Le Maire, l'homme qui doit faire des économies à la France, qui doit tailler dans les dépenses, Bruno Le Maire.
Avec une pression de sa majorité, sa propre majorité, il faut augmenter certains impôts. C'est ce que disait ce matin Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. François Bayrou dit la même chose. Il appelle le gouvernement à discuter d'une hausse ciblée des impôts. Est-ce que Bruno Le Maire pourra résister? Quelles sont ses recettes? Parce qu'il dit qu'il faut faire des économies, mais lesquelles?
Bruno Le Maire, face au GG, tout à l'heure, avec nous à partir de 10h. D'ici là, nous aurons reparlé bien sûr des attentats, de la menace terroriste de la ville de Lyon qui veut limiter le nombre de fast-food dans son centre-ville. On va commencer tout de suite d'ailleurs par cette menace terroriste qui devient de plus en plus prégnante après ce qui s'est passé bien sûr en Russie.
RMC, les grandes gueules.
Oui, parce que le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé qu'on rehaussait le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire que nous passons en urgence attentat. Je vous pose la question, vous avez vu ce qui s'était passé à Moscou, vous avez vu les menaces contre les lycées. Est-ce que vous êtes inquiet, oui ou non? Écoutez notre confrère de France 24, Wassim Nasser, c'est l'un des grands spécialistes du terrorisme et du terrorisme islamiste.
Évidemment, la France n'a jamais cessé d'être une cible. Ça fait partie des cibles prioritaires, en tout cas de l'État islamique. Rappelez-vous, l'attaque à Arras, l'attaque de la Tour Eiffel, tout ça, c'était l'État islamique. Et c'était il y a quelques mois.
Est-ce qu'en effet, les Jeux Olympiques à Paris font partie de leur cible et des événements auxquels ils songent?
Écoutez, évidemment, j'ai envie de dire, parce que c'est un événement international. Dès qu'il y a un événement international comme ça, sur quoi un événement olympique dont tous les yeux du monde regardent, évidemment que c'est une cible potentielle.
Ouais, Wassim Nasser qui était invité d'Apolline de Malherbe ce matin, dans Apolline Matin sur RMC, RMC Story.
Oui, la France n'a jamais cessé d'être une cible de Daesh, comme la Russie d'ailleurs, parce qu'il faut quand même rappeler que la Russie qui est intervenue avec beaucoup de fermeté, voire de violence en Syrie pour chasser Daesh, et une cible de Daesh, Daesh qui veut se venger depuis ce moment-là. D'ailleurs, il y a plusieurs attentats à la bombe qui ont lieu en Russie, même si on n'en parle pas, avant celui commis vendredi qui a fait au moins 133 morts. Alors même si Vladimir Poutine voudrait que ce soit la main ukrainienne qui soit derrière tout ça, on a bien compris que c'était Daesh qui a revendiqué, trois fois d'ailleurs, Daesh qui aussi essaie de démontrer que finalement, ils peuvent agir partout, même dans des états dits policiers autoritaires. Alors chez nous, on est beaucoup moins autoritaire, beaucoup moins policier, et donc on est une cible privilégiée. La France n'a jamais cessé d'être une cible. Alors c'est pour ça qu'on s'interroge sur tout d'un coup cette réunion hier, ce conseil de défense, cette volonté de rehausser le plan Vigipirate. Est-ce que vraiment l'attentat de Moscou change quoi que ce soit à la menace? Régulièrement, Gérald Darmanin nous explique qu'il déjoue lui-même avec ses services des attentats. Est-ce que vous êtes plus inquiet depuis vendredi, ou est-ce que vous l'étiez déjà, ou est-ce que vous aviez un peu oublié cette menace?
Oh, est-ce que vous allez changer votre comportement, Joël Dagosséry?
Non, moi j'avoue que je l'avais un petit peu oublié, hein, cette menace, enfin, en tout cas de Daesh, avec une attaque aussi, je dirais, massive, je l'avais oublié, mais par contre...
Ça rappelle le Bataclan, ce qui s'est passé vendredi.
Exactement, mais j'étais toujours inquiète du fou furieux tout seul qui se lève et qui va poignarder quelqu'un, comme on l'a vu dans les écoles, etc. Donc ça, j'ai toujours en tête, mais l'attaque comme ça, c'est vrai que j'avais oublié. Et du coup, ce week-end, je suis partie à un concert, donc samedi soir. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, on n'est toujours pas tranquille, on n'est pas...
Tu as cherché la sortie de secours, tu as regardé où elle
était? J'étais très proche de la sortie, j'avais pris des places. C'était à l'Accor Arena, à Bercy. Donc j'avais une place qui était proche de la sortie.
Le concert de qui, on peut savoir?
Oui, bien sûr, de Ne-Yo, un chanteur américain. Voilà, vous savez tout. j'ai quelques vidéos, si vous voulez.
T'étais avec qui?
Non, mais c'est incroyable.
Non, mais Joël, il faut que tu nous donnes ton planning le week-end. Il faut qu'on sache précisément ce que tu fais.
Tu étais seule?
Non, j'étais accompagnée.
Non, mais à Bercy.
Non, je t'ai accompagnée.
T'étais avec 14 000 autres personnes, j'imagine.
Oui, à peu près. Pas mal. Ouais. C'était pas mal. Mais du coup, c'est vrai que ça, je l'avais un peu en tête, mais. Mais après, est-ce que vraiment, là, tout d'un coup, je veux dire, est-ce qu'on nous met un protocole supérieur à ce qu'il y avait actuellement? Enfin, j'ai l'impression qu'on est quand même sous menace depuis presque 10 ans. Maintenant, ça a l'air de rien, mais, presque 10 ans. Donc je pense que je vais continuer à être, à faire ce que je faisais d'habitude.
Non, mais c'est intéressant. Voilà. Tu dis que tu l'avais presque oublié.
Oui,
presque
oublié. Ce type d'attaque, ouais. Par contre, j'étais toujours un peu aux aguets. Je regardais un peu les gens qui étaient un peu seuls, un peu fous, un peu bizarres. Ça, oui.
Alors, ça fait 30 ans que nous vivons avec cette menace, puisque le premier attentat djihadiste sunnite en France, c'est décembre 94, le détournement de l'avion où le GIGN avait donné l'assaut à Marignane, puis ça enchaînait avec les attentats à Paris, Kelkal, etc., etc. Donc, nous vivons avec cette menace depuis 30 ans, et ça va encore durer des années et des années, voire des décennies. Donc, ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément, et c'est intéressant, tu disais, à juste titre, que cette branche de Daesh avait réussi à frapper un État policier. Et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, il y a un lien indirect avec le conflit en Ukraine, qui est que les services de renseignement russes ont beaucoup relâché leur pression sur les mouvements islamistes, puisqu'ils se concentrent justement sur la guerre en Ukraine, sur les réseaux d'espions, parce qu'il y en a en fait des réseaux d'espions ukrainiens en Russie, sur les frappes ukrainiennes qu'il peut y avoir sur le territoire russe, etc., etc. Donc en fait, ça a créé un espace de liberté pour cette branche de Daesh.
Donc dès qu'on relâche la pression,
voilà. Dès qu'on relâche la pression, et enfin, il y a, alors. On dit Daesh, oui, mais c'est une branche bien particulière de Daesh, qui n'est pas le Daesh Irak-Syrie qu'on connaissait, mais qui est une branche en fait d'Asie centrale, qui est étendue à la fois sur l'Afghanistan et les anciennes républiques musulmanes soviétiques comme le Tadjikistan. D'ailleurs, on pense que certains sont d'origine tadjik, donc ils sont présents dans ces pays d'Asie centrale, et ils sont présents en Russie, parce que vu que ce sont, comme le Tadjikistan, d'anciens pays soviétiques, il y a une grosse diaspora issue de ces pays d'Asie centrale, en Russie, à Moscou et ailleurs. Donc en fait, ils ont des relais dans cette diaspora. Le problème, c'est que maintenant, cette branche de Daesh, qui a priori ne nous concernait pas, elle existe aussi en France, cette branche-là. C'est-à-dire que, t'as vu que par exemple déjà il y avait ces dernières années il y avait les Tchétchènes qui s'étaient signalés en France qui sont des citoyens russes et
Profs qui ont été assassinés l'ont été
les deux enseignants qui ont été assassinés l'ont été par des Tchétchènes. T'as vu également que il y a pas longtemps on a arrêté justement on a déjoué un attentat sur le territoire français de cette branche là de Daesh avec des gens qui en fait étaient des ressortissants russes musulmans et tadjiks.
Pardon
et,
mais j'en oui. Pour corroborer ce que tu dis, l'assaillant du pont Bir Hakeim qui avait tué au couteau, au jugé comme ça, sur son ordinateur, on avait retrouvé une allégeance à cette branche-là.
À cette branche-là de l'État islamique.
L'État islamique, bien sûr.
Au Khorasan, qui est le nom en géographie islamique, puisque justement, ils ne reconnaissent pas les États. Donc pour eux, Afghanistan, Tadjikistan, Russie, ça n'existe pas. Il y a une géographie islamique qui est le Khorasan, c'est-à-dire une région dans l'Asie centrale. Et enfin, pour conclure, t'as vu aussi qu'il y avait... en Allemagne, deux Afghans qui ont été arrêtés, qui étaient membres de cette branche-là de Daesh, l'État islamique au Khorasan, et qui prévoyaient un attentat en Suède. Puisqu'en Suède, ils ont des problèmes, il y a eu des autodafés publics du Coran, ça a fait monter la pression. Et donc, tu as deux Afghans qui ont été arrêtés et qui prévoyaient de mitrailler au hasard les gens devant le Parlement suédois.
Et ça t'inquiète ? Est-ce que, comme Joël, du coup, tu regardes un petit peu plus attentivement autour de toi ?
Moi, ça m'inquiète pas plus qu'avant. C'est un problème, on va en avoir pour des décennies.
Didier ?
Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que il faudrait pas que notre État ait fait comme Joël, quoi. Il faudrait pas que notre État ait presque oublié que ça puisse arriver. Non, mais tu vois, non,
moi, c'est Bercy avec moi, des gens dont il ne veut pas nous dire le nom.
Non, c'est pas ça. C'est que cette réunion de crise au lendemain d'un attentat qui ressemblait étrangement le Bataclan à Moscou, il m'inquiète. M'inquiète, le rehaussement du plan Vigipirate aujourd'hui, il m'inquiète dans le sens, est-ce qu'on n'était pas passé à autre chose, quoi, voilà. Alors, bien sûr qu'il y a des attentats qui sont déjoués régulièrement, bien sûr qu'il y a encore un système d'ailleurs. Mais je pense que nous, même si on fait pas la guerre contre les Russes ou contre les Ukrainiens, je pense que notre niveau de vigilance, il est pas comme il était au lendemain du Bataclan. Donc, je pense que, cette piqûre de rappel qui est sans conséquence puisqu'elle est à 500 ou à 2000 kilomètres de chez nous, elle permet de redire aux gens attention, ça peut encore arriver, quoi. Mais je sais pas jusqu'à quel point cette réunion de crise, ce rehaussement du plan Vigipirate,
on n'est pas dans la com politique aussi. Pardon,
mais ça peut être ça aussi. Est-ce qu'on faisait toujours le boulot correctement comme depuis le début des attentats et que là on est dans la com politique ou est-ce qu'on avait oublié le truc
Non, mais Vigipirate, ça sert pas à déjouer des attentats. Ce qui sert à déjouer des attentats, c'est le travail du renseignement. C'est justement tout ce qui n'est pas com politique, le travail de terrain.
Vigipirate, il fait que l'attentat il va pas plus loin.
Vigipirate, c'est pour rassembler c'est pour rassurer la population.
Non, mais Vigipirate, il fait que
on met du bleu, on met des militaires. On met des barrières, on fouille des sacs, etc. Mais enfin, sincèrement,
Vigipirate, il fait aussi que si un mec qui prend un couteau dans une gare, et ben il en tue deux, il en tue pas 30.
D'accord, voilà. Mais enfin, on n'a pas déjoué des attentats massifs avec Vigipirate.
On évite que l'attentat soit terrible, c'est tout.
Oui, enfin, je sais pas, j'ai pas de souvenir récent qu'on ait.
Écoute, des mecs qui sont abattus par des gens de Vigipirate, c'est quand même.
Les dernières attaques terroristes qu'ont visé les profs, Vigipirate ou pas Vigipirate, rien ne les empêchait.
Bah non, parce que c'est pas des lieux où il y a Vigipirate.
Qui m'a inquiété dans l'affaire.
Ah si, des établissements, Vigipirate,
c'est qu'on a révélé que la Russie avait été informée, en fait,
par les Américains.
Mais comme c'était les Américains, ils n'ont pas cru.
Mais là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas des dirigeants qui oublient, on a des dirigeants peut-être qui sont complètement, peut-être arrogants ou qui ont des biais, et ça me fait encore plus peur, parce que pour Israël aussi, on nous a dit que je ne sais plus quel État avait informé Israël que le Hamas pouvait passer.
Les Égyptiens.
Voilà, exactement. Ouais. Merci. Que le Hamas pouvait passer à l'action. Donc, en fait, on a un renseignement qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est déjà bien. Mais par contre, on a des gens qui écoutent pas. Donc là, il y a un vrai problème, pas au niveau du renseignement, mais au niveau des gens qui reçoivent le renseignement et qu'est-ce qu'ils font de ces informations.
Bah, après, moi, je m'interroge dans les gens qui reçoivent le renseignement. À mon avis, il y a aussi quand même pas mal d'intox. C'est facile de dire après, je vous l'avais dit, quoi.
On va passer par le 32-16, en parler avec Pierre, qui est un fidèle des GG, qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, bienvenue. Pierre qui est avec nous, Pierre de la Garenne-Colombes. Bonjour Pierre.
Pierre, il est parti, il avait peur,
une fois, Pierre, deux fois. Pierre, on va le retrouver dans un instant, Pierre, on va le rappeler. Parce que Pierre, en fait, il est inquiet pour ses enfants plus que pour lui.
Oui, bien sûr.
Pour ses enfants, pour quand ils sortent, pour les transports publics, pour les écoles.
Ça veut dire que, oui, effectivement, on était tous focalisés sur le conflit ukrainien. Et on s'aperçoit qu'avec les Russes, on a un ennemi en commun. Oui. C'est l'islamisme et ce terrorisme, Jean-Loup Bonamy. Ça redistribue les choses aussi.
Ah bah moi je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que on avait critiqué, parce qu'en effet sur les méthodes c'était quand même très critiquable, l'intervention russe en Syrie, mais l'intervention russe en Syrie, elle s'est faite contre des gens qui étaient des terroristes islamistes et qui planifiaient des attentats, y compris contre l'Occident. Et ils ont été éradiqués par l'intervention russe. Donc, en effet, et il y a ça aussi. Mais si tu veux, par exemple, obtenir une médiation dans le conflit au Proche-Orient, la Russie, c'est un acteur aussi important. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on a à la fois des divergences profondes avec les Russes, par exemple le dossier ukrainien, ou alors ce qu'ils font en Afrique quand ils soutiennent tous les mouvements anti-français. Mais aussi, on a des points de convergence, la lutte contre le terrorisme, dont ils sont aussi victimes et sur lesquels ils ont des renseignements, etc., etc., ou la stabilisation du Moyen-Orient, nucléaire iranien, conflit à Gaza, israélo-palestinien, pacification en Syrie, etc., etc. Donc, en effet, c'est difficile de présenter la Russie comme l'ennemi absolu, alors qu'on voit qu'on est frappé par les mêmes ennemis et que les gens qui tuent nos enfants dans nos rues ne sont pas des gens du gouvernement russe, mais au contraire des gens qui attaquent aussi la Russie. Ouais, enfin, comme ils nous attaquent.
Pour que ça marche, ça, les gars, il faut que Poutine et le gouvernement russe acceptent l'idée que ça soit des islamistes.
Mais peut-être lui-même se trompe d'ennemi, Poutine.
Non mais la convergence des luttes que t'appelles Olivier en disant on a un ennemi commun, pour l'instant dans la position de Poutine, il refuse qu'on ait un ennemi commun.
Ouais, parce puisqu'il dit son ennemi c'est l'Occident.
Bah voilà, je veux dire dans sa communication au moins
il y avait même un côté un peu gag, et pardon, je mets des guillemets, parce qu'il a fallu que l'État islamique y revendique deux fois.
On a même des vidéos,
regardez. On continue d'en discuter avec Jean-Loup Bonamy, avec Joël Dagosséry, avec Didier Giraud, avec vous au 32-16. Daesh, le retour, le gouvernement qui relève le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, urgence attentat. La menace revient, du coup, comme le disait Joël, elle était dans sa sortie, dans sa salle de concert, un peu plus vigilante. Est-ce que vous aussi, du coup, ça a refait sonner l'alarme interne chez vous? À tout de suite au 32-16.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Je vous rappelle que tout à l'heure à 10h, nous serons avec le ministre des Économies, Bruno Le Maire, qui sera avec nous. C'est l'événement, c'est son face aux GG, pour qu'il nous donne les pistes d'économie, Bruno Le Maire. En même temps, il sort son livre La Voix française aux éditions Flammarion. C'est plutôt un livre de programme.
Oui, ça c'est.
À la fin, il esquisse quand même quelques idées. On sent que Bruno Le Maire, il a des velléités peut-être pour 2027. Bruno Le Maire, il faudra qu'il se bouche les oreilles. Parce que vous savez que nous, on fait gagner 50 000 euros dans les GG, dans les grandes gueules et sur RMC, parce que c'est le retour du coffre RMC.
Ça, c'est pas le coffre de Bercy, hein, c'est autre chose.
Ah non, celui-là, alors là, si vous le gagnez. D'abord, c'est les 50 000 euros, c'est l'aide d'impôt, parce que c'est du gain de jeu.
Pour une fois, l'État ne prend rien.
Et l'alerte coffre, écoutez-la, elle peut tomber à tout moment, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure, dans une demi-heure, dans 45 minutes. Le tout, c'est d'être à l'écoute. Et dès que l'alerte coffre tombe, vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous vous inscrivez. Si vous êtes inscrit, vendredi, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui aura la chance de gagner les 50 000 euros. Vous êtes tiré au sort, d'ores et déjà, vous gagnez 2500 euros. Si vous les remettez en jeu, j'ouvre le coffre. Et dans le coffre, soit c'est une semaine de vacances dans un des campings Tikayan, soit c'est la somme de 50 000 euros. Donc soyez à l'écoute et dès que vous entendez l'alarme coffre, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Revenons à notre discussion sur la menace terroriste. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Le fait que le gouvernement relève le plan Vigipirate au niveau urgence attentat, est-ce que ça vous rassure, oui ou non? Je sais qu'il y a du monde qui arrive au 32-16, mais je vous prie de m'excuser parce qu'on a un petit bug, comme on appelle.
On n'est pas piraté, j'espère.
J'espère que non. Un petit bug au niveau du logiciel du standard pour pouvoir vous mettre en direct.
Qu'est-ce que vous pensez, mes chers grandes gueules, des méthodes russes pour faire parler les terroristes? Parce que vous avez vu comment ils ont fait. Donc ils ont attrapé les quatre, là. Ils les ont tabassés. Il y en a un, on le voit apparaître avec... Le sac en plastique, enfin un bout de sac en plastique, donc visiblement ils l'ont étouffé pour le faire parler, ils les ont tabassés. Il y avait aussi visiblement des prises électriques qui ont été placées là où
sur les testicules.
Voilà.
Je crois qu'on lui a coupé l'oreille.
Vu d'un pays comme la France, c'est vrai que ça paraît surprenant, Jean-Loup.
C'est pas la même culture. C'est pas la même culture non plus, quoi. Enfin, moi j'ai écouté des experts au début de la guerre qui nous expliquaient que dans la culture slave, la violence physique, c'était un niveau de conversation. Voilà. Et que aujourd'hui, quand t'as une attaque comme ça, tu peux pas comparer comment la France, traite les mecs qui ont fait ça et comment la Russie va traiter les mecs qui ont fait ça. Parce que culturellement, c'est différent, quoi.
Oui, mais les types sont pris. Ils sont interrogés quasiment en direct par le FSB. Oui. Devant les caméras, on n'imagine pas ça en France.
Non, mais...
Ça te dérange, Joël?
Pas du tout.
Mais ah, peut-être qu'il y a un juste milieu, tu vois.
Je suis obligée de le dire. Je suis désolée, je suis pas du tout dérangée.
C'est Rambo, quoi.
Non, pas du tout. Je trouve que c'est bien. Ils viennent de faire un carnage. Il manquerait plus que ça que je m'apitoie sur le sort de...
On leur dit s'il vous plaît, quoi.
Exactement.
Donc écoute, la torture pour faire parler un terroriste, ça te choque pas?
Écoute, quand tu vois, pendant le procès d'Abdeslam, comme on a eu du mal, à connaître le tenant et les aboutissants, la vérité, comment il a fait tourner en bourrique tout le tribunal. Je dis pas qu'on devrait adopter ce genre de méthode, mais en tout cas pour ceux qui les adoptent, eh ben j'ai pas envie de leur dire que ah ben oui attention c'est les droits de l'homme etc. Non c'est leur méthode, c'est leur méthode. Et quand je vois que les nôtres sont pas plus efficaces, hein.
Jean-Loup.
Oui alors moi je ne porterai pas
de philosophie les interrogatoires du FSB.
Je ne porterai pas de jugement, mais c'est leur méthode. On est quand même au pays d'Ivan le Terrible et de Staline, donc il y a toute une culture de la violence politique. Donc voilà, je ne suis pas surpris. Mais, c'est leur tradition, ce n'est pas la nôtre. Mais
ce qui est intéressant, c'est que on se pose toujours la question parce qu'il y a de la propagande aussi. Donc quand l'un des terroristes est interrogé et qu'il explique qu'il a déjà été payé pour pour commettre un attentat, ce qui est assez quand même étonnant parce qu'a priori c'est des idéologues et c'est des gens qui sont investis par une mission divine et qui vont se faire tuer sans être payés. Là visiblement c'est des mercenaires, des gens qu'on paye.
La différence c'est qu'ils ne vont pas prendre. Ceux qui sont idéologues, ils ne vont pas prendre.
On paye en roubles. Ouais. Ils sont attrapés assez facilement quand même, j'ai trouvé, très facilement, très rapidement. Et puis ensuite, on leur fait dire, devant les caméras, qu'ils avaient tous rendez-vous avec un commanditaire qu'ils ne connaissent pas. C'est là où il faut être prudent, parce que je me dis à quel moment ils disent aussi ce que les Russes aimeraient bien leur faire dire.
Mais moi, je pense qu'il y a, plusieurs choses dans ces violences. Déjà, je me permets de faire une remarque, c'est que ce qu'on voit là, et qui est tout à fait contraire aux droits de l'homme, je rappelle qu'on a vu des choses du même acabit de la part des Américains, des États-Unis, à la prison d'Abu Ghraib en Irak, où ils faisaient des pyramides humaines, et où là, ce n'était pas le soir même d'attentats pour faire parler des gens dans l'urgence. C'était vraiment pour que les geôliers américains puissent se distraire sur des prisonniers.
Pas seulement, il y a un très bon film qui le raconte,
tout
où
à
il y a aussi de la torture utilisée, oui.
Mais on n'était pas dans l'urgence d'un soir d'attentat. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense que ces méthodes sont utilisées non seulement pour obtenir du renseignement, mais aussi pour les contraindre à dire des choses peut-être fausses, mais qui arrangent le pouvoir
exemple,
russe.
Exemple, ce que je voulais dire.
Exemple, on a été payé, on ne sait pas par qui, peut-être par les Ukrainiens, sous-entendu par les Ukrainiens. Autre chose aussi, c'est d'envoyer un message psychologique dissuasif à tous ceux qui voudraient mourir en martyr, en leur disant, regardez, si vous faites un attentat, en fait, peut-être que vous ne mourrez pas en martyr et que vous serez atrocement traité et humilié, que vous devrez dire des choses humiliantes devant les médias. Vous qui rêvez d'être les fiers guerriers d'Allah, en fait, vous risquez de ne plus en mener large et d'être humilié, enfin, à la fois de beaucoup souffrir et en même temps d'être humilié publiquement à la face de tous les téléspectateurs du monde entier. Donc, réfléchissez-y. Et enfin... Moi, ça me rappelle quelque chose. Il y a très exactement 20 ans, en mars 2004, donc il y a 20 ans, il y avait eu un attentat islamiste, comme quoi c'est pas nouveau, en Espagne. Et le gouvernement qui, à l'époque, justement, participait, le gouvernement Aznar espagnol de droite qui participait à la guerre en Irak, et ça avait été très critiqué, et on était à la veille d'élections, et il avait nié, il avait dit « Ah non, c'est pas Al-Qaïda, c'est pas des islamistes, c'est les Basques, c'est le TA ». Et tout de suite, on avait vu que c'était un mensonge grossier, et le gouvernement Aznar avait perdu les élections sur ça parce qu'il avait menti.
Sauf que Poutine, il peut mentir.
Les élections ont déjà eu lieu. Et là, ça ne changera rien. Mais il y a cette même volonté, comme pour Aznar, sa priorité, c'était les Basques et qu'il ne voulait pas reconnaître son erreur d'avoir participé à la guerre en Irak et les failles de ses services de renseignement sur l'islamisme. Là, Poutine, c'est pareil. Il dit, pour moi, ma priorité, c'est l'Ukraine. Finalement, c'est plus important pour moi pour la puissance de mon pays géopolitiquement que le terrorisme islamiste qui est un peu un épiphénomène, donc c'est plus important pour moi.
Non, mais il y a ce risque de mensonge effectivement après tabassage,
de manipulation,
mais je vois quelque chose de positif à cela, c'est l'invisibilisation de Daesh qui a été obligé de redire par trois fois que c'était bien eux, que c'était bien eux, et il ne faut pas oublier que Daesh aussi, leur pouvoir de terrorisme n'est pas que dans les actes, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, cette ambiance qu'ils mettent autour, qu'ils font peser sur l'Occident, et le fait que Poutine ne les reconnaisse pas, quelque part, ça leur a enlevé un petit peu de pouvoir de nuisance, enfin de pouvoir d'influence, je dirais, et on en a bien besoin, et je trouve que de ce côté-là, ce n'est pas plus mal.
Oui, mais une contre-ambiance, en fait.
Le film américain
qui
est, simplement, je précise, parce que je ne retrouvais plus le titre, c'est Zero Dark Thirty, qui raconte la traque
de Ben Laden.
Ouais. Et les méthodes utilisées par les forces spéciales américaines pour faire parler sont des méthodes qui, a priori, ne sont pas acceptables.
Quand on fait la guerre et qu'on interroge en temps de guerre, c'est jamais très marrant, hein. Il y a bien que il y a bien que la France pour dire qu'elle fait autrement, et je crois pas que dans son histoire elle a toujours fait autrement. D'ailleurs,
oui,
mais moi, tu vois, par rapport aux images que tu dénonçais et comment les Russes, dans toute leur sauvagerie, sont capables à la fois d'aller vite pour résoudre ce genre de truc, de traiter le problème et peut-être de leur faire dire ce qu'ils ont envie qu'ils disent. Je pense que pour le peuple qui regarde ça, les gens sont peut-être plus... Enfin, je sais pas comment faut dire, rassuré, réconforté de voir ça, que les gens qui ont vu le procès d'Abdeslam, ouais, quoi, quand même. Les Français qui étaient au Bataclan ou qui étaient sur les terrasses, qui ont vu le procès d'Abdeslam et s'ils savaient comment Abdeslam est traité en prison, je pense qu'ils seraient plus en colère que les Russes qui ont vu leur propre service secret maltraiter les mecs qui venaient de faire l'attentat. Tu vois, je pense que dans l'opinion publique, dans les images que veut montrer Poutine, il y a ça aussi, quoi. Il y a le fait de répondre à la violence par la violence pour le peuple, quoi. Je trouve que c'est quelque chose d'important pour les gens qui sont victimes, quoi. Mais c'est compliqué à comprendre pour nous parce que c'est pas dans notre culture. Mais moi, je connais plein de gens qui sont révoltés par comment on a traité le seul survivant des attentats de Paris, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont tues, qui sont jamais sur la place publique, quoi. Et les Russes, ils ont une façon d'entrer là-dedans qui est complètement différente. Enfin, du coup, c'était Rambo, quoi. Dans toute la caricature qu'était Rambo, c'est un peu ça quand même. Mais je pense que tous les peuples, quand ils sont en guerre, les interrogatoires pendant le temps de guerre, c'est sûrement pas toujours joli, quoi.
On va refaire une tentative au 32-16 avec Pierre, qui était avec nous tout à l'heure, qu'on vient de rappeler. Bonjour Pierre.
Bonjour les GG.
Bravo pour votre patience.
Bienvenue Pierre. Vous vouliez intervenir parce que vous voulez attirer l'attention sur vos enfants. C'est pas tellement pour vous êtes inquiet, c'est pour vos enfants. Pourquoi Pierre, dites-nous.
Exact. Moi je suis pas trop inquiet pour nous. Ça fait depuis un moment qu'on vit avec ce qui se passe, avec les Bataclan et tout. Et puis il faut être vigilant, il faut pas changer les choses. Et puis il faut vivre quand même. Et puis moi si je suis plus inquiet pour mes enfants quand même, parce qu'ils vont quand même au collège et en université. Et puis, je voudrais qu'ils fassent plus attention à tout ce qui se passe. Et puis, en plus, avec ce qu'il y a eu là, il y a 2-3 jours, avec le piratage, là. Alors, moi, je suis plus inquiet pour mes enfants, surtout. Après, moi, je suis allé à un concert il y a 15 jours, voir le meilleur groupe au monde. Et j'étais pas trop inquiet. Voilà, je vis ma vie, quoi. On n'a pas trop le choix, de toute façon.
D'accord. Mais est-ce que, comme Joël, maintenant, vous vous dites, quand je vais sortir, je vais regarder où sont les sorties de secours, je vais regarder s'il y a la police pas loin ou pas, Pierre.
Non, on continue à vivre. Ce qu'il faut, c'est faire attention qu'on soit tous, nous les citoyens, qu'on fasse attention à tout, quoi. Mais comme je disais, c'est surtout les enfants, quoi. C'est le plus important et faire très, très attention.
Mais ça vous rassure pas quand le gouvernement dit on relève alerte urgence attentat?
Précisément, par exemple, urgence attentat, ça veut dire qu'on va renforcer la sécurité autour des établissements scolaires, autour des lieux de culte, dans les transports, à proximité des institutions. A priori, il y a des patrouilles supplémentaires de la force sentinelle qui sont programmées. On va aussi fouiller davantage les sacs. Tout ça, c'est rassurant ou vous dites ça change rien?
C'est rassurant, oui, bien sûr. De toute façon, on a toujours été en vigie pirate depuis, depuis le Bataclan, hein, ça n'a rien changé.
Voilà, même avant.
Même avant, bien sûr, exact, oui.
Ouais, vigie pirate, c'est plus les années 90.
Moi, j'y allais quand j'étais à l'armée en 95.
Donc. Oui.
Mais il faut faire attention, même entre nous, hein, qu'on soit entre des citoyens, qu'on s'aide entre nous, surtout. Il arrive quoi que ce soit, qu'on puisse intervenir aussi, quoi.
Bien sûr. Pierre, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous disiez que vous êtes allé voir le meilleur groupe du monde, c'était lequel?
Dépêche Mode.
Ah, oui. C'est un point de vue.
Il y a personne qui crie pour moi.
Non, moi je trouve ça très bien, très bon choix.
Merci Pierre d'avoir été dans les GG. Bonne journée Pierre, à bientôt pour une nouvelle discussion.
Tout à l'heure, c'est vrai que le niveau Vigipirate, on ne sait pas pourquoi il a baissé, parce qu'il avait remis à son niveau le plus élevé après l'assassinat du professeur Dominique Bernard, donc c'était assez récent.
Et du coup, on ne savait pas qu'il avait rebaissé.
Il avait rebaissé, je crois, en janvier.
Personne ne le dit quand il baisse.
Donc ça remonte. Bon, c'est un peu bizarre cette façon.
Non, mais je pense que c'est une façon de faire souffler les effectifs. Enfin, on te dit toujours quand on le remonte, on te dit pas quand on le rebaisse derrière. Mais je pense que c'est une façon de faire souffler les effectifs. Mais enfin, Tu vois, Pierre, il l'a dit, quoi. Nous, il faut qu'on revive. Donc, oui, revive, c'est ce qu'a dit Joël, c'est un peu oublié. Fait,
hein. Oui, mais entre janvier et maintenant, pardon, mais je ne suis pas sûr que la menace terroriste était moins importante.
Et je pense que maintenir le plan Vigipirate au niveau écarlate, ou je ne sais pas comment c'est le niveau, là, depuis le début, tout le temps, en termes d'effectifs, je crois que c'est pas tenable, tout simplement.
Mais au-delà de Vigipirate, il y a la question du terreau. On a dit que c'était une branche de Daesh qui était implantée en Afghanistan et en Asie centrale.
Parce qu'ils font la guerre aux talibans aussi.
Voilà. Et oui, d'ailleurs, les talibans luttent contre ce mouvement terroriste.
Entre eux, ils se tapent entre eux.
Voilà, mais ils sont beaux parce que les talibans n'ont pas le projet de faire des attentats chez nous. Non, c'est vrai. Tout simplement.
Non, ouais, et
voilà.
C'est surtout parce que cette branche-là veut toujours créer le califat dans la zone.
Exactement, voilà. Ce qui n'intéresse pas du tout les talibans. Et les talibans, d'ailleurs, avec l'armée américaine et les renseignements américains, avaient lutté contre cette branche, mais simplement, est-ce que c'est entre talibans et surtout cette branche, est-ce que c'est une bonne idée de laisser entrer massivement des ressortissants afghans sur notre territoire qui peuvent quand même constituer un terreau de recrutement.
On a posé la question, est-ce que vous êtes inquiet, c'est le retour de Daesh, alors là c'est la branche du califat du Khorasan, enfin bon c'est vrai que c'est pas très simple à suivre, enfin toujours est-il
que c'est folklorique.
Ils ont fait 137 morts en Russie, à Moscou. Daesh, le retour, est-ce que vous êtes inquiet? Regardez, c'est très partagé, oui 53, non, quasiment 47.
Certaines. D'ailleurs, c'est un bilan humain tragique, assez proche de celui du Bataclan.
Tout à fait.
On est même acteur, même mode opératoire, à peu près même bilan, non? C'est salle de concert, c'est très proche, c'est le Bataclan russe.
Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. À la mairie de Paris, Rachida Dati en tête des sondages. Jean-Luc Mélenchon qui entend laisser le flambeau peut-être pour 2027. Et une nouvelle opération PlaceNet XXL, cette fois-ci à Lille. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? On verra ce qu'on dit nos GG.
RMC,
9h midi,
les Grandes Gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les Grandes Gueules, c'est en direct, c'est avec vous, c'est au 32-16 que ça se passe. On réagit, on débat. Dans un quart d'heure, le ministre de l'économie, le ministre des économies, Monsieur Bruno Le Maire, sera avec nous pour nous dire quelle piste il envisage pour faire en sorte que la France sorte du rouge, surtout qu'on a les agences de notation qui vont sortir leur carnet de notes là dans quelques semaines.
Les mauvaises notes du printemps.
Ouais. Donc avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, et la coach de vie Joël Dagosséry, on a nos petites listes de questions à poser à Bruno Le Maire. Mais ça, c'est à 10h. En attendant, c'est le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Des opérations PlaceNet en cours actuellement dans plusieurs villes de France. Opération anti-drogue, dont une XXL en ce moment à Lille, où Gérald Darmanin est attendu. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
S'en fout.
Jean-Loup,
on s'en fout complètement.
Didier,
on s'en fout pas.
Bon, des opérations qui interviennent après celles lancées évidemment la semaine dernière à Marseille par Emmanuel Macron en personne. Pourquoi tu ne t'en fous pas, Didier?
Parce que je pense que c'est très bien que ces opérations aient lieu et qu'il faut les faire. Par contre, la présence d'un ministre, d'un président, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle amène. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
Bon, bah, ok.
Ok, c'est réglé. On enchaîne.
Rachida Dati.
Non, mais ça fait quoi de plus que le ministre de l'Intérieur aille là-bas, quoi? Que les flics fassent leur boulot, c'est tout ce qu'on demande.
Bon, Rachida Dati, les GG en tête des intentions de vote au municipal à Paris. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Didier?
Sans toucher l'autre.
Sondage Ipsos pour la Tribune dimanche. La ministre de la Culture est donnée largement en tête du premier tour en 2026. Et ce, quelle que soit la configuration face à elle. En cas de liste, par exemple, commune Renaissance et LR, Dati réunirait 38% des intentions de vote. En conduisant une liste Renaissance seulement, avec donc un candidat LR en face, eh bien, Rachida Dati obtiendrait 30% des intentions de vote. Et Anne Hidalgo, seulement 14%. Pourquoi on s'en fout pas, Joël?
Non, mais moi, j'habite à Paris uniquement pour pouvoir voter contre Anne Hidalgo. Donc, j'attends. J'ai pour projet de quitter la France un jour, mais je ne partirai pas tant que je n'aurai pas bouté Anne Hidalgo hors de Paris. Donc,
c'est ta mission.
Oui, c'est ma mission.
C'est Joël Lapucelle. Joël Lapucelle de.
Donc, non, je voterai pour Madame Dati sans aucun problème.
D'accord. T'es né en Lorraine, hein.
Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans le sondage, c'est pas le score de Dati, parce qu'on sait pas, mais c'est surtout l'impopularité que ça, d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'elle décroche.
C'est pas à dire que Dati est populaire, hein.
Oui, non, ça montre surtout que s'il y avait une élection, même le candidat, c'est Yannick Jadot qui est testé, écologiste, serait devant la candidate socialiste. Donc ça montre bien le rejet. Aujourd'hui, même à gauche, d'Anne Hidalgo.
Même toi, tu pourrais être élu, Olivier.
Oui.
Didier.
J'y pense.
Non, j'ai dit.
Ah oui, c'est vrai. Jean-Loup.
Oui, on s'en fout pas. Bah, d'ailleurs, je pense que la raison principale, d'ailleurs, elle l'a presque dit, pour laquelle elle a pris le ministère de la Culture, c'est de devenir macroniste, de ne pas avoir de candidat macroniste contre elle, d'être candidate macroniste, soit avec une alliance avec son ancien parti LR, soit même sans alliance. Elle l'a dit dès le début, elle a dit, quand elle a été nommée ministre, elle a dit, mon objectif, c'est Paris, je n'abandonne pas du tout Paris. Et donc, le but de son passage au ministère de la Culture, c'est de pouvoir être investi par Renaissance et d'être la candidate. Enfin, on verra si, avec Madame Dati maire, il y a moins de surmulots dans les rues ou pas. On verra.
Après, il faut rappeler.
Mais en tout cas, non, on s'en fout pas.
C'est dans 2 ans. Hein.
Ça fait depuis 2001 que Paris était à la gauche, aux mains de la gauche. Hein.
Ouais. C'est pour rappeler que ces élections ne sont pas des suffrages directs.
Ouais. Sauf s'ils changent les règles du jeu, voilà. Ce qui est dans l'idée.
C'est un peu dans les tuyaux. Ouais.
Mais que ce sont des élections par arrondissement et ensuite ce sont les conseillers d'arrondissement qui votent pour le maire.
Des communes intercommunalités, en fait.
C'est PLM. Hein.
Les GG, pas de quatrième candidature en revanche pour Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, le leader de la France Insoumise a dit vendredi sur X, ex-Twitter, qu'il souhaite être remplacé en 2027. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup ?
On s'en fout parce que on s'en fout.
Si on s'en fout, on dit rien.
On s'en fout. Okay.
On s'en fout pas.
Joël, on s'en fout pas. Didier.
Écoute, moi je pense qu'il utilise la technique de la bête crevée. Voilà.
Ah.
Une technique de chasse du renard qui fait croire qu'il est mort. Et les oiseaux qui s'approchent, principalement les corbeaux qui s'approchent pour essayer de bouffer le renard, soi-disant mort, eh ben ils se font manger par le renard. Et je pense que Mélenchon, je crois pas du tout qu'il va arrêter. Je crois que Mélenchon, il est complètement dans cette technique-là. Dire qu'il arrête, c'est faire sortir quelques prétendants du bois et leur couper la tête plus facilement. Mais ça, c'est mon analyse qui peut être complètement fausse. Je suis pas un expert de l'extrême gauche.
Je suis 100% d'accord.
La technique du renard crevé, très bien.
De la bête crevée.
Joël. Non, mais c'est surtout que ça va pas avec son attitude. Il a dit faites mieux. Ouais. Puis maintenant, il dit « j'aimerais être remplacé ». Mais il est tout le temps là. Il vampirise les LFistes. Et en plus, ceux qui osent le critiquer, comme Madame Raquel Garrido, bah, il leur coupe la tête. Bah, excuse-moi, il n'a pas du tout envie d'être remplacé.
Il n'a pas l'habitude de quelqu'un qui...
Bah non.
Il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui a envie de partir.
Je sais pas, quand Jospin, il nous a dit que c'était fini. Enfin, c'était vraiment fini.
Il est parti.
Tu l'as senti, il est parti. Enfin, il vient, il passe la tête une fois tous les 10 ans pour dire deux mots. Lui, il est là en permanence.
Donc, c'est pas crédible.
C'est pas vrai. Et puis les GG, est-ce que oui ou non, il faut éteindre la tour Eiffel en hommage aux victimes à Moscou? En tout cas, il est possible qu'elle soit éteinte cette semaine, dans quelques jours. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, ma chère Joël?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
Bon, Joël?
Moi, j'en ai ras la casquette de la diplomatie de la tour Eiffel.
Éclairage.
Non, mais je veux dire, on n'a plus de diplomates. Enfin, on a tué un peu ce qui faisait aussi notre grandeur, notre prestige, la diplomatie française. Il nous reste plus que la tour Eiffel jour nuit. Enfin,
ça, c'est la diplomatie parisienne.
Oui, mais d'accord. Mais enfin, je veux dire, et là, quand tu qu'elle s'éteigne ou qu'elle s'allume, enfin, je veux dire que ça change quoi dans
c'est un symbole fort quand même à échelle internationale.
Ah
tout le monde le fait. Oui, mais enfin,
pour Neymar, la Russie, on le carré le loup, quoi. Voilà.
Non, t'es pas pour.
Mais non, enfin,
okay.
Ça change rien.
Je rejoins un peu Joël sur le fait que ça devient un Pierre et le loup, quoi. À force de crier au loup, et plus personne remarque quand on crie au loup. N'empêche que sur le fond, ce type d'hommage un peu fort pour les victimes de Moscou, ça me choquerait pas, quoi. Ça me choquerait pas. T'as beau pas être d'accord avec Poutine. Le peuple russe, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose d'officiel pour leur rendre hommage, ça me choquerait pas. Après, derrière ça, c'est juste que là, c'est encore la mairie de Paris qui décrète ou qui décide, je sais pas comment faut dire. Et le fait que ça ait été fait, que ça a été fait pour Neymar et puis Zidane et les autres.
Non mais...
Du coup, quel symbole ça a. Mais qu'il y ait une vraie symbolique pour le peuple russe, ça me choquerait pas.
Jean-Loup, parce que t'avais envie de dire quelque chose quand même.
Oui, non, mais ça me paraît normal. À partir, ça serait quand même hallucinant, non seulement vis-à-vis des morts et des victimes, mais en plus où nous avons connu les mêmes expériences et nous sommes confrontés aux mêmes dangers, aux mêmes menaces. Où ça s'est produit hier avec le Bataclan, ça peut se reproduire demain. Ça serait quand même un peu aberrant de ne rien faire.
Parce que pourquoi il y a débat en fait, ça je comprends pas. Parce que aujourd'hui, Poutine c'est notre ennemi on peut pas. Il faut distinguer le dirigeant du peuple. C'est le peuple qui a été visé.
Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Bataclan?
C'est des spectateurs.
Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Bataclan?
Non, mais c'est des spectateurs qui ont été visés.
C'est
des enfants.
C'est là où je dis faut rendre hommage.
Mais on différencie pas Poutine de ses sportifs. Je veux dire, si on veut absolument mettre Poutine à part, qu'on le fasse jusqu'aux sportifs, qui en interdit.
Je te rappelle que les sportifs russes vont défiler.
Ne vont pas défiler.
Donc,
ils n'ont pas dit mais leur médaille ne
voilà,
pas
donc ça veut dire qu'on les assimile quand même aux actions de leur président.
Et tu vois, quasiment tous les soirs, la télé russe dans son show dit qu'il faut écraser la France, qu'on se demande par quelle ville, si on appuyait sur l'arme nucléaire, par quelle ville on commencerait la vitrification. Bah, est-ce que la télé russe, à ce moment-là, montrerait la tour Eiffel éteinte en hommage éteinte aux victimes russes? Tu vois, ce serait aussi une manière de montrer aux Russes. Contrairement à ce que dit votre dirigeant, qu'on ne vous aime pas, qu'on vous déteste, qu'on est contre vous, qu'on veut du mal.
Ils vont le montrer. De rendre hommage au peuple.
Ouais, de rendre hommage au peuple et de leur dire c'est à vous qu'on s'adresse, c'est pas à vous dirigeants. On confond pas les deux, quoi.
Mais quel
on l'a fait pour les victimes des attentats du Hamas, du 7 octobre.
Oui, mais comment on l'a aussi fait pour Neymar, qu'elle portait ça, quoi.
Non, ça, on fait trop souvent. C'est ça. Le problème, c'est que la Tour Eiffel, on a banalisé. C'est devenu un outil de communication, la mairie de Paris.
Il vaut mieux le faire à ce moment-là pour des causes qui en valent la peine, plus que pour des sportifs ou des opérations commerciales, quoi.
Oui, oui.
Et le message, il serait beaucoup plus fort à ce moment-là pour le peuple russe. Merci ma chère Anaïs Sainz. À suivre, que va-t-il se passer dans les GG, dans les grandes gueules, jusqu'à midi. On reparlera des attentats tout à l'heure avec vous à 11h20 et nous serons avec l'un des consultants en terrorisme, Jérôme Poirot. C'est l'ancien adjoint à la Coordination Nationale du Renseignement. À 11h20, il viendra nous dire justement comment, quand on relance l'alerte, la vigilance attentat, comment est-ce que travaillent les équipes de renseignement. Est-ce qu'on peut arriver à travailler avec les Russes, notamment? Est-ce qu'on peut arriver à échanger des informations sur l'État islamique avec les Russes? 11h, fast-food, l'invasion à Lyon. On veut limiter l'ouverture des fast-food. On veut préserver les bistrots lyonnais en centre-ville. La dernière polémique est venue de l'ouverture d'un KFC. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut réglementer l'ouverture des fast-food? Dans un instant, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui sera dans les GG dans les grandes gueules. Bruno Le Maire, le ministre des économies.
Le ministre écrivain.
Le ministre écrivain. La voix française, c'est le livre qu'il sort aux éditions Flammarion, dans lequel, bah, vous avez compris, il trace un chemin pour la France.
Et il pense à quoi? À quelle année?
Un certain nombre de propositions, Bruno Le Maire.
Donc, 2027
il sera avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Écoutez-le attentivement parce qu'ensuite on commentera Bruno Le Maire avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.